Erev Tov, les Koulam, Erev Tov à tout le monde, et bienvenue pour ce retour en fanfare dans notre cours du lundi soir à Givat Shmuel et, j'allais dire, de France et de Navarre, parce qu'il n'y a pas que des gens de Givat Shmuel ce soir. Donc voilà, Givat, c'est reparti, et ce soir, puisqu'on a vécu une journée très particulière, et bien on s'est dit qu'on allait faire un petit cours particulier lui aussi. Cours spécial, Théodore. Théodore, en langage étymologique, si on regarde l'allemand à l'origine, Théodore provient du latin qui veut dire Matania, le cadeau de Dieu. Voilà, ça ne s'invente pas, ça ne s'invente pas. Théodore, ça veut dire le cadeau de Dieu. Nounou. On va donc parler de Binyamin Zev, Herzl, ce soir, c'est parti, on y va.
Alors par contre, on ne voit qu'une toute petite partie de ton visage sur le jitsi.
Excuse-moi, voilà, ça y est, c'est reparti. C'est mieux ?
Ouais, voilà. Ouais.
Mais c'était ma meilleure partie, ne l'oublie pas. Tom, alors c'est parti, maintenant on y va. Trêve de baliverne, c'est parti. Alors, j'aimerais tout de suite qu'on ouvre le cours par des petites recommandations halakhiques. Puisqu'on va parler d'un personnage qui est hautement, hautement controversé dans le milieu religieux, j'aimerais qu'on ouvre le cours avec des petites recommandations halakhiques. Attendez, j'ai pas compris. YouTube, vous m'entendez ou vous m'entendez ? Ça a commencé ? Ça fait 1 minute 50. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas ? Oui, oui, non, non, je mets les écouteurs. Faites-moi signe, Yaron, dis-moi si on m'entend. On m'entend, on m'entend pas. On entend, c'est parti. Bon, alors, c'est vrai. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un seul qui dit oui, ça suffit. Top, alors c'est parti. D'abord, donc, j'aurais commencé le cours par... Ça va, combien de oui ? Combien ? Donc, j'aurais commencé le cours par quelques petites recommandations halakhiques. Personnellement, Ethan Fison, je n'ai pas grandi dans un milieu religieux. Ce qui veut dire que jusqu'à mes 18 ans, je ne faisais pas Shabbat et je ne mangeais pas strictement kasher. On va dire ça pour être sympathique. Donc, sachant cela, aujourd'hui, j'essaye de bien faire Shabbat et j'essaye de manger kasher. Maintenant que vous avez les deux données, est-ce que, halakhiquement parlant, vous avez le droit, pas trop audible, attends, je vais essayer, ça sera moins joli, mais peut-être que ça marche. Voilà, est-ce que ça marche mieux maintenant que j'ai mis l'écouteur ? J'espère que ça ira. En tout cas, je reprends mon exemple. Donc, je n'ai pas toujours été sur ma Shabbat, sur ma Kashrout, et maintenant je le suis. Est-ce que, halakhiquement parlant, vous avez le droit de venir me balancer que fut un temps où je n'étais pas religieux. C'est moins bien. Ah, vous êtes compliqué, Internet. Là, maintenant, ça va, tout va bien ? Donc, est-ce que vous avez le droit de me dire « Ouais, mais avant, tu ne faisais pas la Torah ?» Eh bien, d'après la halakha, c'est « assour ». C'est-à-dire « assour le askir le baal teshuva et trata vakodmim ». C'est un grand principe de halakha. On n'a pas le droit de venir dire à quelqu'un qui a fait teshuva sur une erreur qu'il faisait avant, on n'a pas le droit de venir lui faire des remontrances. C'est assour, et c'est du lashon hara, du motzi shemra, tout ce que tu veux. Donc c'est mamash loto. Maintenant, chacun en fonction de la avera qu'il faisait. Celui qui ne faisait pas Shabbat et qui fait Shabbat, bah, c'est là-dessus qu'on parle. Celui qui ne respectait pas ses parents, qui respecte ses parents, ben, ce sera là-dessus qu'on va parler. Et donc, vous allez comprendre que notre ami, Binyamin Zev Herzl, eh bien, très souvent, vous entendez dans les milieux religieux des frasques absolument incroyables, d'une violence invraisemblable contre ce personnage. Alors, je ne vais pas rentrer dans de la basse psychologie, parce qu'il ne faut pas être un grand, grand psychologue pour savoir que les rabbins qui parlent avec une animosité terrible sur Herzl sont d'abord et avant tout extrêmement jaloux. extrêmement jaloux qu'il ait réussi là où 2000 ans de rabbins ont espéré réussir. Mais c'est lui qui a réussi, Malahasot, mais ça, on va le voir dans le cours. D'autre part, et ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème, c'est la deuxième intervention, introduction que je voudrais faire avant le cours, c'est que je trouve qu'on ne peut pas parler d'un sujet si on ne connaît pas le sujet. Donc, on ne peut pas parler d'Herzl si on n'a pas lu Herzl. C'est pashut me'od. C'est pashut me'od. Si tu n'as pas lu les bouquins qu'il a écrits, que ce soit l'État des Juifs, que ce soit Altneuland, que ce soit ses journaux personnels, où il y a une mine d'or dans les journaux personnels de Herzl, eh bien, on ne peut pas se permettre de parler. Malheureusement, je vous parle de ça pourquoi ? Parce que l'une des idées qui m'a lancé pour faire ce cours, c'est que la semaine dernière, dans un groupe WhatsApp dans lequel je participe avec des jeunes filles que j'ai guidées en Pologne, non seulement, bon, elles n'avaient pas une grande connaissance dans le personnage, mais ça c'est normal pour des Juifs de France, peut-être on peut le dire, mais au-delà de ça, quand leur professeur leur a fait cours sur Herzl, eh bien après, une des filles a envoyé des bribes de cours du Rav Amnon Yitzhak, un vieux cours dans lequel il démonte Herzl en publiant des extraits de ses phrases, de ses journaux, de ses livres, évidemment que des extraits, bien sûr sortis de leur contexte, pour faire dire tout et n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple le plus probant que c'est même pas assourd, c'est katane, c'est méprisable de faire ça. Et si je vous disais maintenant que la Torah, Moshe Rabbeinu, est kofer bakadosh baruch hu. Ma'atem omrim, Moshe Rabbeinu est kofer d'akadosh baruch hu. Il rejette Dieu. Ah bah oui, Moshe a écrit dans la Torah « Mi Hashem asher eshma bekolo ». C'est Moshe qui a écrit sous la dictée de Dieu, peut-être. Il a écrit « Mi Hashem asher eshma bekolo ». Qui est donc Hashem que j'écoute sa voix ? Bah, c'est la preuve que Moshe est bel et bien kofer dans l'existence du Créateur. Bon, on s'en fout que dans le texte, c'est Pharaon qui parle et que tout ça, c'est dans un contexte. Ça, on s'en fiche. Puisque si tu as envie de faire dire quelque chose sur un texte en particulier, bah, tu prends les phrases que tu veux et tu fais dire tout ce que tu veux. Donc, Rabotai, sortir des phrases de leur contexte, c'est criminel. Pas shoot. Et c'est minable et lamentable quand c'est fait de la part de gens avec des barbes et des chapeaux qui ont une influence sur le public parce que ça montre une bassesse intellectuelle absolument incroyable. Je me permets d'être violent parce que nous allons sortir maintenant dans notre chiour pour parler d'un énorme personnage. Un énorme personnage. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Yala, on est parti. Binyamin Zev Herzl. Alors, on a appelé ce cours, après 8 minutes, il est peut-être temps de rentrer dans le cours. On a appelé ce cours Herzl, le grand séfarade. Hasfaradi Agadol. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la petite image là, de présentation du cours sur YouTube, j'ai essayé de me mettre un peu comme Herzl, genre sur le balcon. Bon, ça n'a pas marché du tout, j'étais très moche. Mais l'idée était là. Quand on parle Herzl, soyons très honnêtes. Givat, soyons honnêtes. Quand on parle Herzl, Binyamin Zev, mais surtout Théodore Herzl, le mec qui te parle un allemand, mais d'un niveau, tu te disais pas qu'il était sfarade. Et je veux commencer le chiour là-dessus. Binyamin Zev Herzl est sfarade. Alors évidemment qu'il se comporte comme un Ashkenaz, évidemment qu'il parle en allemand, ce que tu veux. Mais il vient d'une famille de Sfaradim. Veze chashuv me'od, me'od, me'od. Pourquoi est-ce chashuv me'od, me'od ? Alors, je voudrais dire une chose très simple. Nous sommes évidemment ce que nous décidons d'être au niveau de notre mouda, de notre conscience, mais nous sommes également énormément de choses que nous avons héritées de nos parents, grands-parents et ancêtres, qu'on le sache, qu'on en soit conscient ou pas. Il y a des choses qui ont été transmises au biberon, qui font partie de notre identité, que tu le veuilles pas, c'est comme ça. Pourquoi je dis cela ? Eh bien, simplement parce que l'espoir sioniste, eh bien, est une donnée qui a toujours été évidente dans le judaïsme séfarade. C'est dans le judaïsme ashkénaze qu'on a commencé à avoir des rabbanim qui se sont opposés au sionisme. Mais vous regarderez, et je vous mets au défi, de me trouver un rabbin séfarade jusqu'à la création de l'État d'Israël et depuis les balbutiements de l'idéal sioniste, un seul rabbin séfarade qui était opposé au sionisme. Il ne l'était pas. Et pour une raison très simple. Parce que dans le monde séfarade, et c'est un Polonais qui vous parle, hein, mais je suis obligé de le dire, parce que dans le monde séfarade, on n'a jamais arrêté d'étudier deux choses. Que dans le monde ashkenaz, on a arrêté d'étudier. Pas tout le monde, il y en a qui ont continué, mais je veux dire de manière générale. Ces deux choses, ce sont le Tanakh, la Bible et la Kabbalah. Or, lorsque tu lis le Tanakh, tu ne peux pas ne pas être sioniste. Toutes les pages, on t'explique que si tu n'es pas en Israël, tu es Oved Avodah Zarah. D'un autre côté, Torah ta Kabbalah, tout ce qu'elle fait, c'est expliquer comment il va falloir sortir d'exil. Donc, si tu veux, celui qui étudie le Tanakh et la Kabbalah, il ne peut que rêver à Sion. Je ne suis pas en train de vous dire, attention, que Herzl était un Mekoubal et un fanat du Tanakh. Pas du tout. Je dis simplement qu'il y a des choses qui passent dans les familles, qu'on en soit conscient ou pas. Je dis que Herzl était un séfarade, mais d'où vient-il? Eh bien, tout d'abord, voyons ses ancêtres. Benjamin Zev Herzl vient d'une famille, il est un descendant direct de Rabbi Yosef Taititzak. Oh oh, Rabbi Yosef Taititzak, Echad Migdole, Gdole, Gdole Olam, il est un contemporain de Rabbi Yosef Karo. Maran HaShulchan Aruch. Il est non seulement un contemporain de Rabbi Yosef Karo, de Salonique, il vient de Salonique, Rabbi Yosef Taititzak. Non seulement c'est un contemporain de Rabbi Yosef Karo, mais c'est le seul personnage de qui Rabbi Yosef Karo dira que où Yarem Ipanav, qu'il a la crainte de lui. C'est un énorme géant du judaïsme, Rabbi Yosef Taititzak. Rabbi Yosef Taititzak n'est pas seulement un contemporain de Rabbi Yosef Karo, il est le rabbin de Maharashdam. Maharashdam, c'est parmi les Gdolé, Gdolé Aposkim. Maharashdam, c'est Rabbi Shmuel di Medina. Bon, on pourrait trouver ça intéressant, au niveau de l'anecdote, que l'élève de l'ancêtre direct de Herzl s'appelle Medina. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Laisse tomber, c'est pas mal. Et j'ai passé super longtemps à la chercher, celle-là. Elle est pas mal. Bon. C'est bon, elle est acceptée? Elle a accepté, j'espère. Donc, ok, alors ça, c'est ses ancêtres. Mais ça, c'est ancêtres lointains. C'est à 400 ans. Plus proche de lui. Eh ben, le grand-père de Binyamin Zev, c'est pas si loin que ça. Eh bien, son grand-père n'est autre que le Chazan de la synagogue de Rabbi Yehuda Chayal Kalai à Sarajevo. Rabbi Yehuda Chayal Kalai, Migdole Gdole Chovevet Zion, grand rabbin de Sarajevo, le grand-père d'Herzl et le Chazan de la communauté. Alors vous allez me dire, bah c'est le Chazan, il a pas, il peut juste avoir une belle voix. Non, ça c'est que depuis les années 50. C'est que depuis, ah, j'exagère peut-être, depuis le 20e siècle. Allez, tu sais quoi? Avant ça, un Chazan, et encore, pas le début du 20e siècle, Chazan Milozan, c'est Migdole Gdole Olam. Rabotai, un Chazan, dans des vraies communautés, c'est quelqu'un qui n'a pas seulement une belle voix, ce n'est pas un cantor. Le Chazan, c'est nous, il y a de la neshama là-dedans, sinon ça ne marche pas. Mais Kitsour, il est le grand-père de Herzl. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, bah, Rabbi Yehuda Chayal Kalai, c'est 60 ans avant que Herzl ne commence à écrire. C'est-à-dire qu'il sort ses livres avant, 60 ans avant que Herzl ne commence à penser à écrire. Et ce qui est très intéressant quand on regarde un tout petit peu, bah, tout simplement, les idées, le projet de Rabbi Yehuda Chayal Kalai, ben, On va voir que ce grand maître, donc je te parle de là au milieu du 19e siècle, va dire tout simplement qu'il est temps d'organiser un congrès qui va rassembler les juifs du monde, qu'il est temps de créer une banque juive, qu'il est temps de mettre en place un plan pour le peuplement de la terre d'Israël et qu'il est temps de créer un État juif. Non, je ne suis pas en train de vous parler du plan de Herzl. Je suis en train de vous parler du plan de Rabbi Yehuda Chai Alkalai. Alors quoi ? Ça, c'est le rabbin qui parle, le Chazan, évidemment qui connaissait tout ça. Je ne suis pas en train de vous dire que Herzl a grandi dans une famille de religieux. Pas du tout. Déjà, le fils de ce fameux Chazan va rejeter complètement la Torah. Pas de problème. Mais il est évident qu'il y a des idéaux qui traversent même quand on a rejeté la Torah, même quand on n'est pas religieux. Et donc, bien sûr, que même si il ne le dira jamais, eh bien, c'est quand même assez surprenant et assez évident dans la comparaison quand on voit que le rabbin de son grand-père a proposé exactement tout ce que lui va mettre en place plus tard. Encore une fois, son côté sfarad et son côté attaché au rabbanim sfarad va faire germer la graine. Il ne le dira jamais. Il ne parlera jamais de manière consciente en disant « J'ai appris ça de Rav Alkalai, j'ai appris ça de Rabbi Moshe Taïtitzak. » Pas du tout. Rabbi Moshe Taïtitzak, etc. Pas du tout. Mais je suis en train de dire que ça filtre. Ça filtre. On n'a pas le choix. Maintenant, lorsqu'on parle du bonhomme, Binyamin Zeev, ben d'abord, il faut savoir que Binyamin Zeev est très attaché à la communauté. Le petit Théodore est à Budapest, parce que pour l'instant, sa famille est à Budapest, et son papa fait partie des gabaïm de la synagogue. Il n'est pas religieux, mais attaché communautaire. On connaît ça très souvent, et donc ça veut dire que très imprégné de son identité. Mais d'un autre côté, il a cherché et trouvé une autre identité, puisque son père est le dirigeant des francs-maçons de Budapest. Et le petit Théodore est toujours étonné de voir une fois toutes les deux semaines, le soir, son père sortir avec un tablier bizarre et se réunir avec les hommes de la communauté dans une des salles annexes de la synagogue. D'ailleurs, le petit Théodore était pressenti pour remplacer son père à la loge, après Budapest à Vienne. Ça ne marchera pas. Il va se faire éjecter avant même de rentrer. Pourquoi ? Parce qu'on dira que le petit Théodore pose trop de questions. Il a trop de réflexions. Ce n'est pas bon pour ce qu'on essaye de mettre en place là-bas. Donc, il ne sera jamais franc-maçon, Herzl, même s'il y aura des restes. Le drapeau qu'il va proposer en premier était le drapeau franc-maçonnique, c'est-à-dire un drapeau blanc avec 7 étoiles dorées. Bon, il reviendra de cette idée-là. Mais ce n'est pas la seule. Et c'est là que je reprends ce que j'ai dit au tout début. Eh oui, lorsque quelqu'un a une idée ou fait quelque chose, mais qu'il revient sur son action, eh bien, on appelle ça faire teshuva. Nahon, vous entendrez dans certaines vidéos comme ça, accusatrices, que Herzl était un mécréant pire que Hitler. La preuve, c'est qu'il a voulu convertir tous les enfants juifs au christianisme. Oui, Zenachon. Zenachon, il écrit dans sa jeunesse, il a 20 ans, et il écrit que le seul moyen de régler le problème de l'antisémitisme, c'est une conversion globale et massive pour qu'on devienne tous des Européens et qu'on arrête d'être considérés comme des Juifs. Alors, il a tort, et il va revenir là-dessus, j'y viens dans deux secondes. Mais on peut voir que dès son plus jeune âge, ce qui l'interpelle, c'est d'aider à régler les problèmes du peuple juif. J'en connais pas beaucoup des gens qui, à 20 ans, c'est ça qui les dérange. Il reviendra sur cela, lorsqu'après l'affaire Dreyfus, et j'y reviendrai, eh bien, lorsqu'après l'affaire Dreyfus, il écrit qu'il revient sur son idée. C'est le premier chapitre de l'État juif dans lequel il dit que finalement, eh bien, l'assimilation ne marche pas, la preuve Dreyfus, et que donc le seul moyen pour le peuple juif de vivre tranquillement, c'est d'avoir un État à lui. Est-ce qu'on a donc le droit maintenant de venir lui dire « Ah, celui qui voulait convertir les... » Non, il a fait teshuva sur ça, pas sur Shabbat, mais sur ça, donc tu n'as pas le droit de venir en disant et sortir des fantômes du placard. D'ailleurs, d'autres diront, il n'a pas brit milé son fils. Nahon. Dans la même optique, il n'a pas fait la Brit Mila à son fils jusqu'à l'âge de 15 ans. Puisqu'à l'âge de 15 ans, il est revenu sur son idée. Il pense qu'il a fait une erreur, que oui, finalement, il va faire la Brit Mila à son fils, parce que finalement, il faut, parce que finalement, ça ne marchera pas la fuite de son identité. Et donc, il fera la Brit Mila à son fils à 15 ans. Bon, je plains un peu le fils. Bon, c'est un peu ballot qu'il a attendu qu'il ait 15 ans. C'est tout ce qu'on peut dire. On peut dire que dommage pour le fiston. En d'autres termes, on parle ici d'un bonhomme qui toute sa vie, et elle est courte, il va vivre 44 ans, ne va penser qu'à une seule chose. Am Israël. Am Israël et la fédération autour de l'idéal du peuple juif va être cristallisée, évidemment, vous le savez, pendant l'affaire Dreyfus. Lorsqu'il sort de l'affaire Dreyfus, il est dans les jardins du Luxembourg et il écrit. Et il va commencer son livre « Medinat HaYehudim », « L'État des Juifs ». Bon, le livre, vous le connaissez, et ceux qui ne le connaissent pas, ben, lisez-le, c'est pas très long. C'est un plan concret de comment est-ce qu'on doit créer un État, et voilà, machin, nan, nan. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de voir ce qu'il écrit dans son journal par rapport à son livre. Car dans son journal, par rapport à son livre, eh bien, il écrit la chose suivante. Je cite. Je sentis, lorsque j'écrivais le livre « L'État des Juifs », qu'il y avait une paire d'ailes qui était au-dessus de ma tête. Et ce qui me permettait d'écrire à ce moment-là n'était autre qu'une menorah, un chandelier à 7 branches qui était allumé. Kanfei Nesharim, menorah zahav. Bah, il n'était pas religieux, le bonhomme. Hein. Je répète qu'il n'était pas religieux. Mais il était tellement imprégné, volontairement ou non d'ailleurs, de cette histoire. Non. Quand tu dis, alors d'abord, si tu fais référence à George Weiss, il faut évidemment ici faire référence à ce livre extraordinaire de George Weiss, Hitler, Herzl. C'est-à-dire que lorsqu'on te parle, je reprends ce que disait notre rabbin de tout à l'heure, le Rav Amnon Yitzhak, qui te compare Herzl à Hitler, genre je ne sais même pas s'il ne te dit pas que Herzl, il est pire que Hitler. J'ai dit, c'est parce qu'il prend des morceaux de lecture et il les sort complètement de leur contexte. Le livre de George Weiss, c'est tout l'inverse. C'est il te prend tout le livre et il... J'explique dans deux secondes. Il prend tout le livre, enfin les livres de Herzl et il va tout simplement remettre toutes les phrases qui sont sorties d'un monde qu'on ne connaît pas et il leur redonne leur véritable contexte. Donc, il a fait un travail incroyable, ça s'appelle donc Herzl, une nouvelle lecture, et c'est un livre très, très, très important. Maintenant, quand il te dit que l'affaire Dreyfus n'est pas le déclencheur, il te dit n'est pas le déclencheur de quoi? Le déclencheur d'un rêve sioniste et d'un rêve de résolution du peuple juif. Mais il a raison, parce qu'il a déjà pensé à cela avant, bien sûr, et d'ailleurs, il l'écrit dans son journal. Mais avant, ça ne prend aucune forme concrète. Voilà. Merci Stéphane. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y réfléchit déjà bien avant, mais pour l'instant, ça ne prend pas de forme concrète. Après l'affaire Dreyfus, eh bien, il écrit le plan concret de la réalisation de cet idéal. Et donc, eh bien, lorsque il commence à écrire, il est imprégné, qu'il le veuille ou pas, d'un idéal qui est beaucoup plus grand que lui. Il va d'ailleurs, dans ce sens-là, réunir en 1897, je passe le côté historique, le premier congrès sioniste à Bâle. D'ailleurs, ça ne devait pas être à Bâle, vous le savez, ça devait être à Munich. Ah oui, quoi de mieux que de le faire en Allemagne? Seulement, les rabbins d'Allemagne se sont farouchement opposés à la venue de ce sioniste-là, et donc, finalement, ce n'était pas à Munich, ça a été à Bâle. Ça devait être dans un cellier à bière et finalement sur ses propres deniers, tout a été fait sur ses propres deniers de toute façon, eh bien il va changer l'adresse du congrès au casino municipal de Bâle. Et là c'est parti.
Et Et je sais,
oui, vas-y, vas-y, Élie.
Si tu veux en parler.
Dis-moi.
Je ne sais pas si tu veux en parler, mais c'est le grand-père du Rav Shlomo Carlebar, qui était le grand rabbin de Bâle, qui va l'aider à organiser le congrès. Enfin, parce qu'on avait dit qu'on devait parler du Rav.
C'est ça, c'est ça. Tu m'as précédé. Ben alors voilà, effectivement. C'est-à-dire que les rabbins de Munich refusent qu'il se présente. Et donc, pourquoi est-ce qu'il va à Bâle? Parce que j'ai dit, de Munich, il est parti à Bâle. Et parce qu'il est invité. C'est-à-dire que, après que Munich descende de l'affaire, eh bien, effectivement, le grand-père de Reb Shlomo, il n'est pas tout seul, hein, il envoie une lettre en disant, tu peux venir chez nous. Chez nous, ça va le faire. Et donc, bah, alors, effectivement, ça sera à Bâle, comme on le sait. Rabotai, OK. Il écrit la chose suivante. Il écrit après le congrès, après le premier congrès. Il écrit cette phrase incroyable. Il dit Chazara a Chazara slicha la Yahadut kodemet la Chazara le Arzenu. Hein, le retour au judaïsme est avant un retour sur notre terre. Ça ne veut pas dire qu'il va mettre cette filine et qu'il va faire Shabbat. Il faut bien que vous compreniez dans quelle ambiance il vit, dans quel état d'esprit c'est le judaïsme de l'émancipation de la fin du 19e siècle. Mais pour lui, il comprend qu'il doit revenir à une authenticité de son identité. Il n'y avait certainement pas de plus grand défenseur de la cause juive que lui. Il dira d'ailleurs également quelque chose d'assez incroyable, une phrase qui... pour nous, sonne tellement juste qu'on a du mal à mettre dans son contexte. Il écrit dans son journal « En kiyuma shel umatenu ela be'emunata » La seule existence de notre peuple, c'est dans sa foi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il fera Shabbat. Mais vous comprenez à quel point il est fondamentalement imprégné de ce qu'il est en train de mettre en place. Et qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place ? Yarabotai, le côté historique est important, mais le côté toranique ne l'est pas moins. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place, notre grand séfarade? Mais pourquoi il a pensé à l'Ouganda? Yarabotai, Herzl n'a absolument pas pensé à l'Ouganda. Herzl, on lui a proposé l'Ouganda. Ça n'a rien à voir. Nous sommes au congrès, le sixième congrès, le fameux congrès de l'Ouganda, nous sommes en 1903, et à ce moment-là, vient d'avoir lieu le pogrom de Kishinev. Pogrom de Kishinev, 42 morts et 500 blessés. Quand on sait que 40 ans plus tard, ce sera la Shoah là-bas, et bon, laisse tomber, on n'en parle pas. Ça me paraît des chiffres petits. Mais sauf que pour l'époque, c'est énorme. Ça fait l'effet d'une bombe dans le monde juif. On a massacré 42 juifs, on a blessé 500 autres. Et à ce moment-là, alors que pour l'instant, depuis près de 6 ans, il fait le tour du monde pour qu'on lui laisse créer son pays en Israël, eh bien finalement, aucune de ces pistes pour l'instant ne marche. Les Anglais lui proposent l'Ouganda. Ils disent, de toute façon, nous, Israël, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas encore sous les mains britanniques, puisque c'est encore l'Empire ottoman. Ils disent donc, on ne peut pas te proposer Israël, ce n'est pas à nous. Mais viens, on te propose l'Ouganda. Il y a là le lac Victoria, petit safari sympa. C'est là qu'on a tourné le Roi Lion. Ça peut le faire, ça peut être sympa. Donc, ce n'est pas lui qui a pensé à l'Ouganda. Les Anglais ont proposé l'Ouganda. Et tu sais quoi, si tu me lances sur l'Ouganda, ben, je vais te répondre. Parce que donc, Herzl, on lui propose l'Ouganda. Donc, pas de problème. Il le propose au Congrès. Ce n'est pas lui qui décide tout seul. Il y a une organisation sioniste mondiale maintenant. Donc, il propose l'Ouganda. Et qui vote pour ? Ben, les religieux. Les religieux. Parce qu'ils se disent, bon, nous, on a la Torah. Donc, si on ne va pas tout de suite en Israël, ce n'est pas grave. On ira en Israël bientôt. Pardon ? Pour lui, c'était un nazi. C'est ce que je suis en train de dire. Deux secondes. C'est-à-dire que les religieux, ils disent, pour l'instant, nous, on fait avec. Pour l'instant, c'est l'Ouganda. Yala. Et Bezrat Hashem, le Mashiach, nous emmènera en Eretz Israël. Et les non-religieux, on dit pas du tout. Si vous nous prenez le rêve sioniste de Sion, Nous, on n'a plus rien, puisqu'on n'a pas la Torah non plus. Donc, si vous nous prenez ça, on n'a plus rien. Et donc, finalement, eh bien, l'idée de Luganda est tombée. Ceci étant, même lui, même Herzl, ne voit pas en Luganda la fin du voyage. Mais c'est une option temporaire. Mais encore une fois, ce n'est pas lui qui a pensé, on lui a proposé. Rabotai, de quoi est-ce qu'on est en train de parler ? Juste avant de rentrer dans le côté toranique, est-ce qu'il y avait des rabbins ? Est-ce qu'il y avait des rabbins à son époque qui l'ont soutenu ? Qui ont soutenu le bonhomme avec la grande barbe ? Parce que moi, je vais vous dire ce que j'en pense après. C'est-à-dire qu'on est quoi ? On est 120 ans après. Mais est-ce qu'à son époque, les barbes l'ont soutenu ? Je te rassure, la majorité des barbes ne l'ont pas soutenu, bien sûr. Attends, tu crois quoi ? Sinon, ce serait trop facile. La majorité des barbes n'ont pas soutenu. Mais il y en a quand même qui l'ont soutenu. Parmi eux, un grand, grand, grand monsieur du judaïsme, un grand monsieur qui s'appelait tout simplement le Rav Reines. Le Rav Reines va être le fondateur du Hapoel HaMizrahi, donc du mouvement, on va dire, qui va devenir le mouvement sioniste religieux. Il est impressionné par le personnage. Il n'est pas au premier congrès, il le suit de très près. Il décide 2 ans plus tard de rentrer dans l'Organisation sioniste mondiale. Pourquoi il n'est pas rentré tout de suite ? Il l'écrit dans son livre. Il écrit un livre qui s'appelle Shnei Ameorot. Et dans son livre Shnei Ameorot, eh bien, il écrit la chose suivante. Je cite. Il est. Avant de participer activement au rêve du docteur Herzl, eh bien, je voulais voir s'il était digne de ma confiance, digne de diriger le mouvement sioniste, digne de diriger un tel réveil national. Je voulais vérifier la grandeur d'âme du docteur Herzl. 2 ans plus tard, les vérifications sont faites et il a décidé de rentrer. Il n'y a pas de rue Herzl à Jérusalem. Comment ça ? Et Sderot Herzl, c'est quoi alors ? Bekitsour. Et le Rav Kook dans l'histoire. Deux secondes. La place. Le Rav Reines, donc, est un des grands soutiens. Mais il n'est pas le seul. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Hein. Vous voyez, bien sûr qu'il y a le Har Herzl, Sderot Herzl. Bekitsour, il y a ce qu'il faut à Jérusalem, vous n'en faites pas. Il n'y a pas que le Rav Reines. Je voudrais vous citer ici un autre bonhomme. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, Rabbi Moshe Glasner. Rabbi Moshe Glasner, il n'est peut-être pas connu, mais son Mechoutan, lui, il est très connu, puisque le père de sa femme, Rabbi Moshe Glasner, n'est autre que Rabbi Moshe Sofer, le Khatam Sofer. Donc, si le Khatam Sofer a donné sa fille en mariage à ce bonhomme, c'est que c'était un grand bonhomme. Eh bien, Rabbi Moshe Glasner, né Cloisenburg, c'est un des grands rabbins de la ville de Cloisenburg, a dit il a dit un matin, c'est incroyable de vérité, un matin Shabbat, il a dit, non c'était pas Shabbat, c'était Erev Shabbat, c'était le vendredi, il a dit Ani metzapeh la shevet began Eden bemargelotav shel hagadol ba'anakim Binyamin Zev Herzl. Bon, bah, à Mincha, avant Shabbat, il n'était plus le rabbin de Cloisenburg. Ah non, il l'avait dégagé. Ils l'ont dégagé et ils ont mis à la place Motzei Shabbat, parce que bon, ça a pris un peu de temps, son fils, Rabbi Akiva Glasner. Lui, c'est bon, le fils, il n'avait pas de tendance sioniste, donc c'est bon, on pouvait le mettre le rabbin de la communauté. Seul problème, c'est que Rabbi Akiva Glasner va vivre à l'époque de la Shoah. Et à l'époque de la Shoah, hein, il va être sauvé finalement dans le fameux train de Kastner. Et lorsqu'il va arriver en Eretz Israël, il va écrire un livre qui s'appelle « Vidouï Gadol », le grand vidouï, le grand pardon, dans lequel il explique à quel point tous les rabbins d'Europe centrale, comme ça, d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, qui étaient complètement opposés au sionisme, étaient tellement dans l'erreur. Alors, contrairement au Rav Teichtel, qui écrit dans son « Ein Banim Smecha », qui dit, c'est une réponse, il dit voilà, pourquoi on s'est trompé ? Rabbi Akiva Glasner lui explique à quel point il demande pardon au peuple juif. Car à cause d'eux, eh bien, une grande partie de ce peuple juif n'a pas suivi, n'a pas embrassé l'idéal sioniste. Alors c'est quoi cet idéal? Qu'est-ce qu'il représente pour nous, Binyamin Zeev Herzl, Theodor Matania Herzl? Qu'est-ce qu'il représente? Rabotai, Herzl, si on devait le comparer à des personnages bibliques, eh bien évidemment, et ça on avait déjà parlé à Givat dans un autre cours, on pourrait le comparer très certainement à Moshe Rabbeinu. Enfin, plus à Moshe avant Rabbeinu. C'est-à-dire le Moshe d'Égypte. Le Moshe qui a grandi en Égypte, dans la civilisation mondiale de l'époque, et qui va devenir le Goël Rishon, le premier libérateur. De la même façon, Herzl a grandi dans la culture occidentale et va devenir le début du Goël Acharon. Mais on peut évidemment le faire correspondre également à Yosef, qui, chez les autres, va d'abord avoir, dans un premier temps, une idéologie d'oublier son identité. Je vous rappelle que Yosef va quand même appeler son fils Menaché, qui n'a chani Elohim et kol amali et kol betavi. J'ai oublié la maison de mon père. Et le deuxième s'appellera Ephraim, qui frani Elohim beretzoni. C'est-à-dire que je suis bien là où je suis. Et là aussi, Yosef va comprendre finalement, il comprendra qu'il ne doit pas rester en Égypte. Finalement, il comprendra que Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem, Vaalitem, Et Atzmota, Imizé. Finalement, il comprend que non, il faudra rentrer à la maison. Et donc, il fait prêter serment à ses frères de le ramener à la maison. Attends, Alex, on y arrivera. Bekitsour, Binyamin Zeev, lui aussi, écrit dans son journal, après le congrès de l'Ouganda, il sent qu'il va mourir. Il dit que s'il vient, et s'il est encore vivant au prochain congrès, il répétera à quel point bah, l'Ouganda, ça ne marchera pas, qu'il faut Jérusalem. Et il écrit qu'il n'a aucun doute que l'État juif va naître en terre d'Israël. Et il demande qu'on y transporte ses ossements. Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem, Vaalitem, Et Atzmota, Imizela, Avertzel. Et c'est ce que l'État d'Israël, fraîchement créé, a décidé de faire. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Rabotai, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Dans son livre Kinat Hashem Tsevaot, le Ramchal nous explique que la notion de Mashiach est double dans le judaïsme. Oh, ce n'est pas le Ramchal qui a lancé l'idée. Le Talmud commence par nous parler, c'est le premier texte, qui nous parle, pas du Mashiach, ça on a déjà entendu parler du Mashiach avant, mais qui nous parle de la notion de Mashiach Ben Yosef par rapport à Ben David. Il y a deux tendances au Mashiach. Il y a Mashiach Ben David, qui est là pour amener la Kedusha, et il y a Mashiach Ben Yosef, qui est là pour amener le cli, l'ustensile, pour permettre de faire résider la Kedusha. Ramchal, dans Kinat Hashem Tsevaot, nous dit que Mashiach ben Yosef, ce n'est donc pas un homme comme Mashiach ben David sera l'héritier de la maison de David. Mashiach ben Yosef est porté par des hommes, car c'est une idée, c'est un concept, c'est une époque. Je parlais du Rav Kook tout à l'heure. Eh bien, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse du texte qu'on peut retrouver dans Ma'amrei Re'iya qui s'appelle Misped l'Yerushalayim. Plus qu'un courant, Alex. Quelque chose de beaucoup plus profond. J'ai envie de dire une étape dans le dévoilement de Dieu. Une étape très importante. Alors, évidemment, il se peut que l'étape rempli, qui s'appelle Mashiach ben Yosef, soit rempli par Mashiach ben David. C'est pour ça que le Rambam, dans les lois sur le Mashiach, ne parle pas de Mashiach ben Yosef. Parce que ça peut être réalisé par Mashiach ben David. Dans les faits, ça n'a pas été fait. Ça a été réalisé par Mashiach ben Yosef, et Mashiach ben David reviendra plus tard. Mais de quoi parle-t-on, en fait? Mashiach ben Yosef, le Rav Kook, dans son texte qui s'appelle Misped l'Yerushalayim, écrit un éloge funèbre à Herzl. Dans cet éloge funèbre, eh bien, il ne s'y trompe pas. Il appelle tout simplement Herzl, Ikveta de Meshichar Ben Yosef. Il est le début du dévoilement de Mashiach ben Yosef. Il est Mashiach ben Yosef. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, revenons aux premières sources de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef nous dit le Talmud, dans le traité de Souka, qu'il y a un verset dans Zecharia Navi. Un verset qui dit « Vaya bayom ahou yigdal amisped birushalayim que misped adad rimon bet tav rimon bebikat megiddo. » Ça, c'est le verset dans Zecharia Navi. Et le Talmud dira « Il malet argument pasuk ze satum beyaden. » Si on n'avait pas le targum, alors ce verset était incompréhensible. On nous dit « Viendra un jour où il y aura un misped » qui sera très grand à Jérusalem, comme le misped de Hadad Rimon ben Tavrimon dans la vallée de Megiddo. Seulement, quand tu regardes un petit peu, c'est qui Hadad Rimon, Tavrimon, c'est quoi, c'est... on n'y comprend rien. Celui qui va faire le targoum des Nevi'im, ce n'est pas Onkelus. Onkelus, c'est pour la Torah. Pour les Nevi'im, c'est Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel va faire le targoum. La Gemara nous raconte que lorsque Yonatan ben Uziel a fait le targoum des Nevi'im, Eretz Israël isda'azéa, il y a eu un tremblement de terre terrible. Arba me'ot parsa, l'arba me'ot parsa. Et une voix est sortie du ciel en disant, qui dévoile mon secret à mes enfants? Yonatan ben Uziel s'est levé en disant, Annie, et pourquoi je fais ça? Pour qu'il n'y ait pas de machloquette dans le peuple juif. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui nous dévoile? Eh bien, le Targum de Jonathan nous dit la chose suivante. Vaya bayom ahou yigdal amisped shel Mashiach ben Yosef. Et il sera aussi grand, ce misped, ce esped, que le esped qu'on a fait à Achav, Melech Israël, qui a été tué par Hadad Rimon ben Tavrimon, et aussi grand également que le esped qu'on a fait à Yoshiyahu Melech Yehuda, qui a été tué par Paro Necho dans la vallée de Megiddo. En fait, il a pris deux mix, deux époques, deux rois différents, il les a mixés, et il en a fait un verset, Zecharia. Et Yonatan ben Uziel nous explique c'est quoi la différence entre les deux. Mais vous comprenez maintenant de quoi on parle. Il dit, je veux pas qu'il y ait de machloquette. Mais vous avez compris qu'en fait, ce verset nous parle de la royauté de Yosef, du Tsafon, et de la royauté de Yehuda. Le Rav Kook explique que dans l'époque tanachique biblique, le peuple juif s'est scindé en deux royaumes, Israël et Yehuda. Israël s'occupait de la shefa, de la construction, de l'identité, on va dire, concrète, alors que Yehuda s'occupait du Mikdash. Dit le Rav Kook, c'est ce qui va devenir dans la littérature de nos sages, Ephraim et Yehuda, ce qui va devenir à notre époque, Datim et Chilonim. Nous dit Zecharia Hanavi, Mashiach ben Yosef, il doit prendre des deux, puisque son misped, il sera au niveau des deux. Non, ce n'est pas une question de Racha et Tzadik. Parce que Achab, Melech Israël, était un Racha à plein de niveaux, mais c'est un mec bien sur plein d'autres niveaux. Tu sais qu'à l'époque de Achab, Melech Israël, personne dans son royaume ne disait de la Shonara. Ça n'existait pas, la Shonara, dans son royaume. Que c'était le plus grand défenseur du peuple juif, de la terre d'Israël. Que lorsqu'il se prend une flèche en plein cœur, enfin peut-être pas en plein cœur, mais en plein ventre, dans son combat, il sait qu'il va mourir, il demande à son écuyer de l'attacher debout sur son char pour que Israël ne le voie pas tomber, ne perde pas espoir et continue à se battre. C'est pas vrai. Alors que Yoshiyahu Melech Yehuda est un tzaddik, il fait Shabbat, il mange kasher. Mais quand le Navi lui dit de laisser passer Pharaon, parce que ce n'est pas contre lui qu'il en a, et ce n'est pas le moment de se faire la guerre avec Pharaon, ben il n'écoute pas. Et ben, le pays est détruit en grande majorité, et Yoshiyahu est tué aussi. Donc ce n'est pas aussi évident, Racha et tzaddik. Ce que je veux dire par là, c'est que ce Mashiach ben Yosef, qui est la préparation, l'outil qui permet à Machir Ben David de se dévoiler, eh bien, c'est l'idéal de la création physique du peuple juif.
à tel point que nos sages de Anshe Knesset Hagdola mettront tout l'idéal de Machiav Ben Yosef dans un mot. ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתורה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בניין עולם, במהרה בימינו, כן? אלא on te dit, quoi? On te dit qu'il doit préparer la chaise de David. וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין. Eh bien, תכין, זה משיח בן יוסף. La préparation à כיסא דוד, c'est le משיח בן יוסף. Et donc, nous dit le Rav Kook, Herzl, c'est Mashiach ben Yosef. Mais attendez, le Talmud a dit quoi? Il t'a dit qu'il y aura un espède de Mashiach ben Yosef? Donc quoi, ça voudrait dire qu'il y a un risque que cet idéal sioniste laïque, c'est-à-dire sioniste purement concret, technique, de création du pays, qui n'est pas porté par l'idéal de la Torah, y a-t-il un risque qu'il meure? Dit le même Talmud que oui, que Mashiach ben Yosef atid le'areg, qu'il va mourir, il se fera tuer par qui? Aliede, alors là ça change des versions entre Bavli et Yerushalmi, aliede Armilus Arasha ou aliede Romulus Arasha. C'est la même chose. Romulus, c'est l'idéal de Rome. Romulus, c'est le premier fondateur de Rome. Armilus, c'est une autre prononciation, mais c'est le même délire. En d'autres termes, il semblerait que Mashiach ben Yosef, l'idéal de construction d'un pays juif, est mis en péril par Romulus Arasha. Eh bien oui. À chaque fois que l'idéal sioniste a pointé le bout de son nez, eh bien, il a été mis en danger. Mais le Talmud dit, il n'y a pas, il va se faire tuer. Viendra le Harizal en disant, non, si on prie pour lui, pour ma chère Ben Yosef, alors il ne se fera pas tuer. Le Gaon de Vilna dira, il faut prier pour lui pour qu'il ne se fasse pas tuer dans Kolator. Il y a donc un danger qu'à un moment donné, ma chère Ben Yosef s'éteigne. À nous de faire en sorte qu'il reste là. Quelqu'un a écrit ici, évidemment, on ne peut pas ne pas se rappeler. On a commencé avec Rabbi Shmuel di Medina, mais là, ce n'est pas un jeu de mots. On ne peut pas ne pas évoquer ici le danger qui a plané sur Mashiach ben Yosef avant la création de l'État d'Israël, donc dans le Yishuv, qui était le cli qui était en train de se mettre en place, qui était complètement Mashiach ben Yosef, qui reprenait l'idéal de Herzl et ainsi de suite. Le Yishuv à Yehudi Be'eretz Israël. Eh bien, on ne peut pas ne pas se rappeler, évidemment, du danger qu'a représenté dans la Deuxième Guerre mondiale l'avancée et l'épopée de la Afrika Korps menée par le général Romulus. Rommel était le général qui menait l'armée nazie pour détruire Mashiach ben Yosef, pour détruire ce qui était en train de se mettre en place comme étant le futur État d'Israël. Il y a des rabbanim à l'époque qui ont été jusqu'à l'endroit des combats pour prier que Mashiach ben Yosef ne soit pas exterminé. Avotai Baruch Hashem, Mashiach ben Yosef n'a pas été exterminé. Mashiach ben Yosef a tout simplement baissé d'intensité. Pourquoi il a baissé d'intensité? Eh bien, il a baissé d'intensité parce que il est arrivé à la fin de son boulot. Le boulot de Mashiach ben Yosef, c'est de créer l'ustensile. Et tant que l'ustensile n'est pas créé, eh bien, il y a un danger. Enfin, il y a un danger. Il faut mettre toutes ses forces pour créer l'ustensile. Et c'est pour ça que le Rav Kook, eh bien, va être du côté. C'est pour ça que le Rav, comme on a dit, Glasner, le Rav Reines, que le Rav Shmuel Maliver, vont dire, mais c'est ça qu'il faut. Parce qu'il faut donner toutes les forces pour construire le cli. Mais une fois que le cli est fini, alors attention, dans le cli, tu as deux choses. Tu as rassemblé les matériaux pour faire le cli et tu as la construction du cli. C'est deux temps. et il y a après une fois que le kli il est fini. Et bien une fois que le kli est terminé, bah ma chère Ben Yosef, il se dit j'ai plus grand chose à faire. Donc, il y a une chute qu'on va appeler aujourd'hui le post-sionisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Abotai, je l'ai dit ce Shabbat à ma synagogue, je l'ai redit cette semaine dans un cours, je ne sais pas si vous avez entendu. Nous vivons, nous sommes cette semaine rentrés dans une époque incroyable. Depuis mercredi, nous sommes rentrés dans une époque incroyable. Pourquoi ? Parce que nous sommes entrés dans la 73e année de l'État d'Israël. Pourquoi est-ce une époque incroyable, la 73e année de l'État d'Israël ? Eh bien parce que c'est l'année qui correspond à la fin du boulot de Machiav Ben Yosef. Alors, je ne fais pas des calculs de Kabbalah, pas du tout. Je fais tout simplement une analyse historique du passé. C'est beaucoup plus facile que de prédire l'avenir. Eh oui. Par deux fois, avant ce coup-là, par deux fois auparavant, l'État d'Israël a été indépendant. Il y a eu une malchoute Israël. Il y a eu une Géoula. La première, c'est lorsqu'on est sorti d'Égypte. Et la deuxième, lorsqu'on s'est libéré du joug des Grecs à Hanouka. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on n'est pas devenu le royaume d'Israël réuni d'un coup. Pas du tout. C'est-à-dire que depuis la sortie d'Égypte, il a fallu attendre le roi David pour que le peuple juif soit réuni sous une seule bannière en Eretz Israël. En fait, nous n'avons eu que 73 ans d'État d'Israël uni sous l'époque de David et Shlomo. 33 ans de David, 40 ans de Shlomo, et après la mort de Shlomo, Rechavam, le schisme, la séparation en deux royaumes. Beaucoup plus tard, après la guerre de Hanouka, il faudra attendre après Maosur, pour finalement arriver à l'an -140, pour monter sur le trône Shimon Achashmonaï, qui lui va être Nessi Israël, qui va être le premier roi d'Israël officiel, et ça va durer jusqu'en -67, lorsque Aristobulus II et Hyrcanus II, les enfants de Shlomtzion Amalka, vont se faire la guerre, parce que l'un va être Kohen Gadol et roi, et l'autre va être aussi et roi et Kohen Gadol, quitte sur la guerre, ils vont faire rentrer les Romains dans Jérusalem, dans le pays, et... Mais ça s'explique. Vous savez, la première génération, c'est la génération qui se bat pour la survie. C'est la génération qui rassemble tout le monde, qui rassemble les ustensiles. C'est David. C'est les premiers rois Hashmonaïm. La deuxième génération, c'est la génération des bâtisseurs. Maintenant qu'on a réuni tout le monde, Yala on construit. C'est Shlomo. C'est Alexander Yanaï, Shlomtzion, Matityahu Antigonos. Mais une fois qu'on a rassemblé et qu'on a construit, la troisième génération, malheureusement, est enclin à la chute. C'est le moment où ma chère Ben Yosef n'a plus vraiment de boulot. Eh bien, à ce moment-là, il ne faudra pas répéter les erreurs du passé. Ça veut dire quoi, ne pas répéter les erreurs du passé ? Eh bien, nous sommes rentrés dans la 73e année. Nous ne sommes plus les réunisseurs qu'était Ben Gurion, qu'était avant lui Herzl. Nous ne sommes plus les grands bâtisseurs qu'était Begin, qu'était même Yitzhak Rabin, d'un certain point de vue. Nous sommes maintenant la génération numéro 3. Je citerai le Rav Israël Meir Lao, qui lorsqu'il prend la succession du Rav Goren à la tête du Grand Rabbinat d'Israël, il dit « Bon, maintenant on joue en troisième division. Hein. Jusqu'à présent, on avait des rabbins de Ligue des Champions. » Là, maintenant, on joue dans une division quand même sacrément moins. Alors, Rav Goren a dit, vous êtes la génération la plus importante, puisqu'il s'agit maintenant de pouvoir construire l'étape supérieure, de pouvoir construire l'étage au-dessus. L'étage au-dessus, c'est la Kedusha. Pour que cette Kedusha puisse exister, nous n'avons pas le droit de renier les fondations. Nous n'avons donc pas le droit de renier. Exactement, exactement Stéphane. Le post-sionisme, c'est ceux qui voudraient tuer Machiav Ben Yosef. Aval, on ne les laissera pas faire. Et de post-sionisme, on reviendra à un bon sionisme. Bien comme il faut, bien de chez nous. Un sionisme sur lequel on va pouvoir greffer, bah, tout simplement, la côté, le côté Kedusha. Binyamin Zev Herzl est celui qui va lancer le processus de Mashiach Ben Yosef. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous prions évidemment pour que ce processus ne s'arrête pas, mais au contraire, qu'il se grandisse de quelque chose de plus important. Qu'il se grandisse en comprenant que cette année, on a fait nos barbecues chacun chez nous, il y a eu des cérémonies comme ça sur Zoom, mais bah tachlès, c'était plus le même Yom HaAtzmaout que les années précédentes. Et je parle pas de ceux qui n'ont pas pu faire le tioul, et je parle pas de ceux non plus qui n'ont pas respecté les consignes et qui se sont réunis à plusieurs familles pour barbecuer ensemble. Je sais des choses. Non, je ne dis rien, je ne sais pas. Mais il paraît qu'il y a une ville d'Israël, au centre du pays, qui porte le nom d'une colline d'un prophète. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, je me suis dit qu'après ce que mes grands-parents ils ont vécu, je ne pratiquerai pas la délation. Vous avez donc du bol. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il est évident qu'on a vécu un Yom HaTzmaout. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?
Il dit on ne nous dit pas tout.
On ne nous dit pas tout.
On ne nous dit pas tout.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, quoi qu'il en soit, on a vécu un Yom HaTzmaout différent. Et il est très possible que l'année prochaine, on revienne aux festivités comme avant. Ou alors, qu'on comprenne que ça ne nous suffit plus. Ça ne nous suffit plus un feu d'artifice, des avions qui passent dans le ciel, des grands skassim. On veut autre chose. En plus, pas à la place. Et c'est ça le grand chidouche. On veut en plus et pas à la place. Ze gam ve gam. Velachen, et bien maintenant qu'on a dit tout cela, et bien on comprend qu'on vient de passer une journée très importante. Oui, oui, dans le peuple d'Israël, on vient de passer une journée très importante puisqu'on était aujourd'hui le 10 du mois de Iyar, le jour anniversaire de Binyamin Zev Herzl. Pas à Askara, puisque c'est Askara, c'est en Tammuz. Et donc, bien heureusement, le Mitrad Achinour a décidé qu'il fallait parler de Herzl à un moment où les élèves n'étaient pas en vacances. Et donc, ils se sont rappelés qu'il était né le 10 Iyar. Et donc, c'est Yom Herzl. Maintenant, au-delà d'être Yom Herzl au Mitrad Achinour, c'est également Netzach Sheba Netzach au niveau des Sfirot. Vous savez, dans le Sfirat à Omer, nous avons sept semaines qui correspondent aux sept Sfirot Tartonot, d'après la Kabbalah, à savoir Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Dans chaque semaine, nous avons sept jours pour que, eh bien, chaque Sfira puisse être véritablement dévoilée par toutes les autres côtés. Et donc, nous évoluons entre le point de départ de l'identité d'Israël, la sortie d'Égypte, jusqu'à son véritable boulot, pas le don de la Torah, mais le dévoilement de Dieu. Car Shavuot, comme tout le monde le sait, n'est pas le moment où on a reçu la Torah, mais c'est le moment où on a reçu le dévoilement de Dieu. Pendant ces sept semaines, nous avons donc un dévoilement crescendo. La première semaine, c'est la semaine de Chesed. Bah, c'est pas compliqué, c'est la fête de Pessah. Fête de Pessah, Dieu nous a sortis d'Égypte, Bechesed Gamour. Donc c'est Shavua Shel Chesed. Dans la deuxième semaine, c'est Gvura. Shavua Shel Gvura. Pendant des années, les Mekoubalim comprenaient de quoi il s'agissait, mais le peuple, pas forcément. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ce soit clair pour tout le monde. Puisque dans la deuxième semaine de Sfirat HaOmer, nous mettons un point d'honneur à parler de Yom HaShoah VeHaGvura. La troisième semaine, à Tiferet. Oh, ben ça, on l'a expliqué plein de fois. Beyesod Sheba Tiferet est revenu Tiferet Aouma. Tiferet, c'est l'éclat, la grandeur. Ben, c'est Yom HaAtzmaout, qui est dans la troisième semaine de Sfirat HaOmer. Dans la quatrième semaine, Netzach Sheba Netzach, dans le Netzach du Netzach, c'est l'anniversaire de Herzl. Et on a dit, Netzach, c'est la prina de Moshe Rabbeinu, en tant que Goel Rishon, et lui, Goel Acharon. Une fois qu'on a mis en place Mashiach Ben Yosef, on peut commencer à évoluer. Et donc, eh bien après, nous avons besoin, on a dit, de quelque chose de plus profond, de plus pnimi. Et donc après Netzach, nous avons Hod. Hod, c'est quoi? Eh bien, Behod Sheba Hod, c'est tout simplement la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire Torah Takabala. C'est-à-dire tout ce qui a, on a dit consciemment ou inconsciemment, amené le bonhomme à nous dévoiler ce qu'il nous a dévoilé. Une fois qu'on a mis cela en place, eh bien, on peut rentrer dans la semaine de Yesod. Oh, Makore be Yesod, Pashut. Atzadik ou Yesod a Olam. Tzadik, Yesod, Olam. Et qui nous a appris comment on devient tzadik? Eh bien, c'est le Ramchal, grâce au Messilat Yesharim, qui nous a appris toutes les étapes pour devenir tzadik. Eh bien, be Yesod, Sheba Yesod, c'est la Iloula de Ramchal. Et puis enfin, dans la dernière semaine, nous arrivons à la Malchut, dans la première journée, Chesed Sheba Malchut, où c'est le jour du Kafret Beiyar, Yom Yerushalayim. Abotai, nous sommes en train de réaliser ce que pendant des centaines, voire des milliers d'années, n'était qu'un rêve. Et je ne saurais trop vous rappeler les paroles du bonhomme barbu, qui a dit, mais si vous le voulez, ça ne sera pas un rêve. Et c'est pour ça que je terminerai sur la phrase qu'il nous dit dans son journal, encore une fois, je termine par son journal, enfin non, je terminerai par une autre phrase, mais dans son journal, il dit, si je pouvais, je dirais que ici, à Bâle, il l'écrit juste après le premier congrès, j'ai créé l'État juif. Mais si je disais cette phrase à haute voix, tout le monde se moquerait de moi. Mais vous verrez dans 5 ans, et sinon très certainement dans 50 ans, tout le monde verra que j'avais raison. Le premier congrès sioniste a lieu en 1897. 50 ans plus tard, en 1947, les Nations Unies votent la création d'un État juif. Vous me direz, prophète ? Peut-être. Enfin, certainement pas au niveau de la halakha, mais il est évident que quelque chose s'est passé à ce moment-là. Ce quelque chose, eh bien, je voudrais le terminer par une phrase qu'écrit Binyamin Zeev, et non plus Théodore. Binyamin Zeev, lorsqu'il veut conclure son œuvre, il a écrit l'État des Juifs, il a écrit les journaux personnels, mais il écrit également un roman. Il écrit un roman qui va mettre en scène son État des Juifs de manière plus romancée. Ce roman, il l'appelle Altneuland. Ah, que Schenkin traduira par le mot Tel Aviv. Tel, c'est une colline archéologique qui fait référence au passé. Aviv, c'est le renouveau qui fait référence à la résurrection. Altneuland, terre ancienne, terre nouvelle, pays ancien, pays nouveau. On se rappelle également que le terme de Tel Aviv vient du prophète Yéhézkel. Eh oui. Bekitsour, Herzl écrit dans son Altneuland, dans le dernier chapitre, dans le festin après la réussite de la création de cet État, eh bien, il fait parler tous les protagonistes. Et parmi tous les protagonistes, il leur dit, ben voilà, chacun va dire pour lui qui a réussi, qui est le responsable de la réalisation de tout ce qu'on a fait. Certains vont dire c'est l'agent juif, d'autres vont dire c'est Kakal, d'autres vont dire c'est l'homme chané. Le dernier qui va parler dans l'œuvre de Binyamin Zeev n'est autre que le rabbin. Oui, parce que les rabbins dans la tête de Herzl, on a dit comment était Herzl dans la tête des rabbins, mais les rabbins dans la tête d'Herzl, ils ont une place à jouer, ils ont un rôle à jouer. Bevadai, bevadai. Pour Herzl, il écrit que les rabbins dans les communautés de Chutz La'aretz ont un seul rôle, le plus important. C'est eux qui doivent choisir quels sont les jeunes qui vont envoyer en Israël. Parce que pour lui, c'est évident que les rabbins sont les dirigeants du peuple juif et que donc, c'est eux qui connaissent le mieux ben, leur communauté et qui vont donc pouvoir ben, participer tout naturellement à l'effort sioniste et qui vont amener les meilleurs. Bon, il n'avait peut-être pas très très bien compris ce que c'était que Chet HaMeraglim. Bon, il a compris après, laisse tomber. Mais dans son livre, dans Altneiland, eh bien, il terminera son œuvre par le rabbin. Et il ouvre la bouche du rabbin pour dire « Celui qui est responsable de tout ce qui nous arrive, Zemme'et Hashem ha'itazot iniflat be'enen. » Cette phrase du Hallel, on a dit à Yom HaAtzmaout, tellement, tellement révélatrice. Tout ce qui nous arrive, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Bah, tachles, il n'y avait qu'un grand séfarade pour nous apprendre cela. Il n'y avait qu'un grand séfarade qui pouvait tout simplement, ben, reprendre les paroles, par exemple, de Rabbi Yosef Messas. Rabbi Yosef Messas, qui était grand rabbin de Haïfa, lorsqu'un jour, un jeune séfarade lui a demandé, il y a des gens qui disent qu'il faut dire Tachanoun à Yom HaAtzmaout, qu'est-ce que t'en penses? Rabbi Yosef Messas lui répond, et il dit, Atta Sfaradi, pourquoi tu te prends la tête? Fais comme tous les Sfaradim, et puis tu fais le Hallel, et puis t'en parles plus, hein? Oh là là, un bon Sfarad qui est Yireh Hashem, il se prend pas la tête quand il voit la Géoula, et ben il voit la Géoula, et puis c'est tout. Herzl a été l'un des plus grands séfarades de l'histoire. Il a ouvert la porte de Mashiach Ben Yosef. Nous l'avons refermée cette année pour laisser s'entrouvrir et s'ouvrir en grand la porte de Mashiach Ben David. Et comme disait l'autre, eh ben si on le veut, ça ne sera pas un rêve. Erev Tov, les Koulam. À bientôt. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Pas de questions? Pas de questions? Non, pas de questions? Bon. Bah alors, à bientôt, les amis.
Bonne soirée,
ça va.
Extraordinaire, merci.
Ouais, ouais, Stéphane, est-ce que je dois être un peu séfarade? Ah, écoute, hein, on est tous un peu séfarade, quelque chose. Il y a Johnny, il disait, on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Bon, ben, on doit tous avoir quelque chose de séfarade, quelque part. Quoi en plus? Qu'est-ce qu'on doit faire en plus à Yom HaAtzmaout? C'est une très bonne question à laquelle il va falloir qu'on réfléchisse. On a un an pour ça. Ça a l'air? On a un an pour ça, mais je pense qu'il faut faire quelque chose en plus. Zenachon. On verra. Top. Alors à bientôt les amis.